Bonjour, vous êtes bien sûr
Radio Vassivière.
À l'écoute de Élève-toi
avec les enfants.
Une émission pour les parents et les professionnels de l'enfance et de l'éducation, tous ceux qui ont envie de s'élever auprès des enfants, afin de les accompagner avec justesse et leur permettre de donner tout leur potentiel dans ce monde. C'est parti. Bonjour, ici Émilie au studio de Feltin pour cette 42e émission de Élève-toi avec les enfants. Vous pouvez retrouver toutes les autres émissions, ou presque toutes, sur le site de Radio Vassivière, onglet émission, Élève-toi avec les enfants. Eh bien c'est parti. Allez, j'ai envie encore de m'adresser à ceux qui s'occupent d'enfants, à l'école, au centre de loisirs, dans tous ces endroits où on reçoit les enfants et qu'on passe du temps avec eux. Voilà, j'entendais un peu comme une fatalité des parents dire « Oh là là, dans cette école, les enfants se parlent mal, ils se crêpent le chignon, il y a plein d'histoires entre eux. Oups, pas agréable, hein ? Bon, alors bon, ça doit être de la faute des parents. » Alors, pourquoi des enfants mettraient une ambiance désagréable comme ça entre eux et qu'est-ce qu'on peut y faire ? Parce qu'à mon sens, on peut y faire beaucoup. Alors déjà, pourquoi les enfants vont être désagréables les uns avec les autres, vont mettre des mauvaises ambiances ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ben, y en a qui vont être violents, tapés, il y en a qui vont être dans la médisance, faire des histoires, machin, machine, elle avait ça, et puis ma copine, et machin, et trucs, vouloir manipuler. Principalement, on va trouver ces deux choses-là. Alors, pourquoi des enfants en arrivent là ? Eh bien, déjà, ils vont refaire tomber sur d'autres enfants, peut-être un petit peu plus malléables qu'eux, eh bien, ce qu'ils subissent eux-mêmes de la part des adultes. Donc, déjà, première chose, eh bien, dans quel environnement vivent les enfants ? Qu'est-ce qu'ils ont comme adultes qui leur mettent de la violence sur eux, qui leur mettent de la pression ? À l'école ou en dehors de l'école, et est-ce qu'ils vivent entourés d'adultes qui parlent mal, qui médisent, qui font des cancans, et ce genre de choses, voilà. Parce que si eux-mêmes, ils ont ça comme modèle, ou bien ils en sont victimes de violences et de pressions, eh bien malheureusement, ils vont aller le reporter sur les autres, voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans leur environnement ? Alors, si on est professionnel, on ne va pas pouvoir directement changer leur environnement familial, même si on va pouvoir, bien sûr, demander des temps d'échange avec les familles et pourquoi pas organiser des formations, des animations, des ateliers, des conférences, des choses pour aider à faire évoluer au sein de la famille. Mais si on passe beaucoup de temps avec eux, comme à l'école, on va quand même avoir la possibilité et d'agir. Voilà. Donc la première chose va être de comprendre qu'un enfant déjà qui va mettre de la violence sur un autre, eh bien il est en train d'extérioriser la violence que lui-même subit. Ok. Déjà, ça, comment dire, voilà, c'est un petit peu comme cet exemple que donne Isabelle Fioza au début d'un de ses livres. On ne va pas engueuler une plante verte parce qu'elle pousse de travers, ou parce qu'elle ne pousse pas, ou parce que sa fleur a fané. Hein. On va se demander comment on va faire mieux pour que la plante verte, elle aille mieux. Ben, c'est pareil, en fait, on ne va pas engueuler un enfant parce qu'il est pénible, parce qu'il est méchant avec les autres. On va plutôt se demander ben, comment faire pour qu'il pousse mieux. Donc comment faire pour qu'il arrête d'être méchant et pénible avec les autres. Facile à dire, on fait comment ? Surtout que ben voilà, quand on a un groupe à gérer et qu'on a un enfant qui va être perturbateur au milieu du reste, ou qu'on a un groupe à gérer et qu'on va avoir quelques-uns, ben quelques-unes, malheureusement c'est bien souvent le cas, quelques-unes qui vont être médisants, pénibles et faire des histoires. Comment on va gérer tout ça ? Bon, alors tout ce qui est violence, je vous invite à aller écouter tout ce que j'ai enregistré du livre « Écoute » de Patty Whipler. Allez, je le cite encore une fois de plus. J'ai enregistré la lecture de tout ce chapitre-là sur YouTube, sur ma chaîne « Élève-toi » par Émilie Roudier. Et bien sûr, encore mieux, à acheter le livre et en mettre en œuvre ce qui est écrit dedans. Waouh ! Alors, revenons à ce que je voulais dire. Je fais partie d'une équipe, je reçois des enfants et il y a des problèmes de relations entre eux. Alors, malheureusement, dans bien des cas, que fait l'adulte ? Rien. Bah oui. Nier. Nier les problèmes relationnels, faire comme si ça allait pas influencer ce qui se passe sur les temps d'activité et de travail. Moi, j'ai grandi avec ça. Des maîtresses charmantes, hein, mais qui niaient complètement les problèmes relationnels. Sauf que moi, j'étais rentrée dans un rôle de victime et j'avais bien trouvé celle qu'allait faire de moi souffre douleur. Et ça, personne ne le gérait. C'est comme si ça n'existait pas. Et sauf que c'est pas bien facile d'être en classe quand, en fait, il y a ça qui se passe dans le relationnel autour. Voilà. Donc moi, quand je suis devenue hostie, j'avais pas du tout envie de nier ce qui se passait au niveau relationnel. J'ai eu envie de les accompagner. Alors ça veut pas dire devenir intrusif hein, et tout savoir ce qui se passe et avoir un œil sur tout et contrôlant. Non, ça veut dire accompagner cette vie émotionnelle qui se passe là entre les enfants. Parce qu'il me semble quand même que c'est bien de notre devoir de les accompagner aussi sur ce qui se passe dans la récré. C'est surtout dans la récré que ça va se passer ça. Donc, les adultes vont avoir un pouvoir. Bon, alors c'est sûr que c'est mieux si on va pouvoir écrire et mener un projet, mettre en place un projet ensemble. Hein. Si tous les adultes se mettent autour de la table et se disent « Bon, ok, on constate qu'il y a une mauvaise ambiance entre les enfants, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va mettre en place, nous tous ?» C'est sûr que c'est beaucoup plus simple si on s'y met tous que si on s'y met tout seul. Mais bon, il ne faut quand même pas baisser les bras. Si on est tout seul, on est tout seul, ça commence par nous et peut-être que ça sera contagieux. Vous savez, il ne suffit pas grand-chose pour changer le goût de la soupe. Donc qu'est-ce que je peux faire, moi, si je me retrouve toute seule dans ma classe, à dire, j'ai envie de faire quelque chose pour eux, là, c'est pas possible de les laisser vivre là-dedans. Alors déjà, il y a le multi-âge. Hein, on remarque que quand les classes sont multi-âges, ça va favoriser la coopération et minimiser la compétition. Déjà. Alors multi-âge, au moins deux âges d'écart, et si possible trois, quatre, voilà. Alors je sais que c'est mal vu, à la fin quand j'avais demandé à avoir plus de niveaux, c'était mal vu parce qu'on a peur, c'est un petit peu comme si c'était vieillot d'avoir du multi-âge, c'est comme pour vraiment les écoles vraiment rurales de pleine campagne. On m'avait dit, si on fait du multi-âge, on va se faire fermer une classe. Voilà, il y a des a priori comme ça qui ne tiennent pas, à mon sens, hein. Et il y a des écoles en ville qui choisissent, il y en a une célèbre exemple, c'est à Vaux-en-Velin, et qui choisissent vraiment d'être en multi-âge. Et même s'ils ont dans leur école que des CE2, CM1, CM2, ils vont faire 5 classes de CE2, CM1, CM2 par exemple. Et oui, et ça a vraiment un impact. Alors ça peut faire peur, je sais, le multi-âge, va leur faire plusieurs cours, c'est comme si on voyait le travail multiplié par 3. Non, en fait, ça ne va pas se passer comme ça. Dans l'idéal, c'est sûr que si on voit le travail multiplié par 3, ça ne fait pas envie. Non, ça va être une autre manière de travailler. Hein, une autre manière d'être ensemble, une autre manière de faire. Évidemment, quand on va avoir du multi-âge, déjà, ça va favoriser l'entraide. Il y en a qui vont savoir faire des choses que d'autres ne savent pas faire. Comme j'ai déjà dit dans une autre émission, dans les trucs et astuces, les pratiques en classe, on va pouvoir s'entraider. Et aussi, ça apporte une certaine empathie. Parce que on rentre, on est le plus petit dans cette classe, il y a les plus grands qui sont là. Si eux-mêmes ont grandi ici, il y a des chances qu'ils soient assez accompagnants et bienveillants avec nous. Et puis, on va grandir, on va prendre des responsabilités, on va accueillir ce qui arrive, et on va devenir même les plus grands, et là, on va se sentir vraiment responsable de ce qui se passe. On est gardien d'une mémoire de ce qui se passe ici. Et puis, on sent qu'on a un modèle. On a un modèle à incarner parce qu'il y a des plus petits qui arrivent. Et oui. Et ça va se passer même sans qu'on le décide déjà. Et si on le décide et qu'on a envie d'œuvrer pour ça, ça va se passer encore plus. Et vous savez, quand dans une situation d'apprentissage, il y a quelqu'un qui apprend à un autre quelque chose, celui qui est en train d'expliquer apprend encore plus que celui qui est en train d'écouter. Et oui, ça c'est démontré aussi. Donc je plaide en faveur du multi-âge, dès qu'on peut. Et puis, tout ce que ça va apporter au niveau empathie, grandir ensemble. Et je vous assure même, je peux dire, qu'un groupe où la coopération, où l'empathie est mise au centre, est vraiment voulue, souhaitée, avec beaucoup d'enthousiasme et puis de persévérance par l'adulte, ce groupe après est capable d'accueillir un enfant qui était perturbant ailleurs, qui pouvait être violent ou médisant, et de l'aider à évoluer. Ça, je l'ai vu, je l'ai expérimenté avec mes élèves. Et ça, c'est vraiment précieux. C'est fait du bien. L'adulte, il ne va pas être seul, à accueillir cet enfant qui ne va pas bien et qui pourrait poser des problèmes. C'est tout un groupe que s'il est assez solide, il va pouvoir absorber ce qui ne va pas chez l'autre et l'aider à aller mieux. Donc, je peux mettre en place du multi-âge, voilà. Donc là, il faut, je sais que les autres collègues soient d'accord, que les parents élus soient d'accord. Et voilà, et si on ne peut pas, on va quand même imaginer comment je vais faire naître de la coopération en classe, déjà pendant les activités, et comment je vais enlever cette notion de compétition. Bon, alors c'est sûr que les notes, ça n'aide pas à la compétition. Pourtant, on a besoin d'évaluer des progrès. Alors, il y a plein d'autres manières, ça ne va pas être le sujet aujourd'hui, mais bon. Voilà, en tout cas, les notes au niveau compète, ça ne va pas être top. Très bien. Ensuite, il y a ce qui se passe dans la cour. Alors, quelle est mon attitude dans la cour ? Est-ce que je suis quand même à l'écoute ? Et puis, qu'est-ce que je mets en place pour que les enfants qui se retrouvent en difficulté puissent venir s'exprimer ? Alors, voilà. Donc, au début, nous, quand on faisait les réunions d'enfants, je vous en ai déjà parlé dans une autre émission, il était possible de s'inscrire en réunion pour parler d'un problème relationnel. Après, on a enlevé ça parce qu'on a vu que c'était néfaste et que ceux qui étaient même dans faire des histoires et la médisance allaient utiliser les réunions pour envenimer encore plus les choses au final parce que, on peut déjà avoir que 8 ou 9 ans, mais déjà avoir des belles compétences en manipulation. Donc, on avait dit que dans la réunion, ne restaient que les problèmes qui touchaient plusieurs enfants ou qui étaient vraiment récurrents. Et sinon, on faisait quoi si on a juste un problème ? On apprenait les messages clairs. Un message clair, alors, c'était dire... Quand tu as dit ou fait cela, voici ce que j'ai ressenti, voici ce que je te demande, as-tu compris, es-tu d'accord ? Et l'autre pouvait répondre, et voilà. Alors, ça aussi, ça pouvait être détourné par les bons manipulateurs. Ça pouvait, tout à fait, comme tout outil, la communication non-violente peut tout à fait détourner aussi. Voilà, c'est basé sur la communication non-violente, vous l'aurez deviné. Mais donc, il faut être attentif à comment on va mettre ça en œuvre, parce que je vous assure que j'ai vu des enfants très bons pour venir faire des messages clairs dans tous les sens et les tourner de manière à accuser. Donc, il va vraiment falloir aider les enfants à tourner les choses le plus positivement possible. Autre chose de très intéressant, je trouve, c'est le fameux trois tamis qui est attribué à Socrate, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, où quelqu'un allait lui dire « tu sais ce que la rumeur raconte ?» et il dit « attends, avant de me dire quoi que ce soit, as-tu passé ceci aux trois tamis ?» Hein ? Alors déjà, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu vas me dire est vrai ? Première question à se poser. Hein ? Est-ce que c'est un « on dit » ? Est-ce que j'en ai des preuves ? Est-ce que c'est vrai ce que je vais dire ? Après, si c'est vrai, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est utile que je le dise, quoi ? Est-ce que ça sert à quelque chose ? Et ensuite, est-ce que c'est bon ? Est-ce que ça va amener du mieux dans ce monde, du mieux dans la relation ? Voilà, donc est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est bon ? Les trois tamis. Aider les enfants à passer ce qu'ils vont dire par ces trois questions-là, ces trois tamis-là. Okay ? Alors, il y a aussi les quatre accords Toltec. Je n'en fais pas une affaire personnelle, j'ai une parole impeccable, je fais de mon mieux et je ne fais pas de suppositions, je ne les ai pas dit dans l'ordre habituel, mais voilà. Et je me rappelle qu'il existe des petites vidéos aussi pour présenter ça aux enfants d'une manière un petit peu ludique, avec un chevalier, le bouclier, épée. Voilà, donc j'en arrive aussi au fait que, et alors peut-être je fais une petite parenthèse, on va voir, en fait en lisant les grands contes, mythes et légendes, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, on va aider les enfants à traverser ce qu'ils vivent à l'intérieur et à comprendre ce qu'ils vivent, et même si c'est pas du tout conscient, ça va quand même les aider. Les contes, les mythes et les légendes sont là pour ça, pour aider à la structuration de notre manière de faire, de notre psychologie humaine. Les enfants en ont vraiment besoin. Donc une classe qui est vraiment abreuvée par des contes, des mythes et des légendes avec des espaces pour revenir dessus, que ce soit par l'expression directe, par la lecture, par le dessin, voilà, diverses expressions. Pour cela, je vous renvoie aux travaux de Serge Boimard en psychopédagogie. Ça offre plein de possibilités de venir guérir à l'intérieur ce qui ne va pas et puis qui allait faire toutes ces méchancetés. Voilà. C'était la parenthèse conte, mythe et légende, importance de tout cela dans la structuration de la personnalité. Donc, je leur donne des outils à ces enfants sur mettre de la conscience sur ce que je dis et sur ce que je fais. Et quel impact ça va avoir sur l'autre, bien sûr. Aider à ressentir ce que ça va avoir sur l'autre. Il paraît qu'il y a des pays où il y a des cours d'empathie dès tout petit. Bon, tiens, on n'a pas encore vu ça en France, même si c'est un peu à la mode le mot. Qu'est-ce qu'on met derrière véritablement ? Je ne sais pas. Bref, donc il y a des outils, tout ça. Et bien évidemment, Eh bien nous, est-ce qu'on est violent avec eux ? Est-ce qu'on leur met la pression ? Et est-ce qu'on est médisant ? Est-ce qu'on va parler des autres, mal en parler ? Est-ce qu'on va faire des histoires ? Alors, vous pourrez peut-être me répondre, ah ben non, devant les enfants, jamais, pas du tout, ben non, ils ne me verront jamais faire tout ça. Mais en fait, si c'est fait à l'extérieur, ben, c'est vu quelque part. C'est là, c'est autour de nous, c'est dans notre champ autour de nous. Hein. Nous ne sommes pas que cet objet-là que l'on voit, ce corps physique. Hein, il y a toute cette énergie autour de nous. Et si j'apporte une énergie de médisance et de cancan, eh bien même si j'en fais pas devant eux, ben, c'est ressenti. Les enfants, ils ressentent tout ça. Nous ressentons tous tout ça. Hein. Nous avons tous le Wi-Fi. C'est pour ça qu'il est nuisible d'ailleurs pour nous. Voilà, on est encablé. Hein. Donc tout ça repose aussi sur le fait qu'on vit dans un monde mécanisé où on fait croire à tout le monde, assez vite si possible, que n'est vrai que ce que l'on voit et qu'on n'est pas du tout relié et que nos pensées et nos paroles, ils n'existent que comme ça, quelques secondes, que nos pensées ne sortent pas de notre tête et que nos paroles, une fois qu'elles sont finies, elles sont finies. Ben non, ça marche pas comme ça en fait. Ça c'est la physique de base, la physique mécanique qu'on apprend d'accord en seconde peut-être, mais après on avance et on se rend compte, on sait que et non, la matière c'est de l'énergie et l'énergie c'est de l'information. Et nos pensées elles restent pas dans notre tête et il y a longtemps que tout ça est écrit et vu, mais si c'est pas encore arrivé dans les mœurs, si c'est comme si c'était un petit peu foufou de parler de tout ça, je me rappelle du livre de Lynn McTaggart, Science de l'intention. C'est une journaliste scientifique. Alors tournée vers la spiritualité, et qui va répertorier plein d'expériences qui sont faites sur le pouvoir de notre intention. Et allez-y, si vous êtes un peu dubitatif, ou si vous dites « Ah, ça peut aller, je vais lire, mais vraiment hein ?» Donc, est-ce que notre manière de faire, il n'y aurait pas un petit peu un tabou sur « Bah non, on est que de la matière, là. » Non, on n'est pas que de la matière. Et donc voilà, comment on peut apporter ça? Ben, par les contes, limiter les légendes, comme je le disais, par l'art, par la chanson, par le théâtre, par inventer des histoires, par plein de choses, hein, même si on ne va pas faire peur à ceux qui ne veulent entendre que de mécanique, eh bien on va quand même pouvoir faire vivre tout cela aussi auprès des enfants. Voilà ce que je voulais déjà vous dire là-dessus. En tout cas, on y est pour quelque chose, clairement. Hein. Les instits, alors là j'ai pris les instits dans le cas de l'école, mais si on est les animateurs d'une structure de centre de loisirs, de garderie, tout ça, on y est pour quelque chose, l'ambiance entre les enfants. Vraiment. Et on peut vraiment se mettre tous autour de la table et se dire, bon bah qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux? Il y a aussi ben, le besoin de comprendre leurs émotions. Là, je vous renvoie à toutes les premières émissions de Élève-toi avec les enfants. Parce que donc, l'enfant qui arrive et qui va s'en prendre au plus petit, alors c'est plus petit qui va mordre, qui va pincer, qui va prendre les jouets, et ben, il a besoin de la lâcher, son émotion. Hein. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir accueillir cette émotion, mais pas devant le groupe, pour que l'enfant puisse ensuite aller mieux? Voilà. Un petit passage au niveau des émotions. Oui, alors pourquoi les enfants sont un petit peu des proies, ben évidemment parce qu'ils vivent dans une société où ils vont avoir des modèles comme ça. Et aussi, quand je reviens à cette idée de ben, on n'est pas que de la structure physique, eh bien, il y a aussi l'énergie et l'information. En fait, tout ça, c'est ce qu'on peut appeler le monde psychique. Hein. Le monde psychique des émotions. Et c'est un petit peu comme, vous voyez, quelqu'un qui... En fait, on est pris comme une marionnette, là. D'un seul coup, blup, oh, on est infiltré par Madame Jalousie. On est infiltré par Madame Colère. On est infiltré par Monsieur Bougon. Et d'un seul coup, vous voyez l'enfant qui va bien, et boum, d'un seul coup, ah, qu'est-ce qui se passe là? C'est comme s'il s'était fait prendre comme une marionnette. Donc là, on peut l'aider, l'enfant. Alors si, quand l'enfant il se fait prendre comme une marionnette et buh, il se met à faire n'importe quoi, et bien si nous-mêmes, ça nous fait ça, on se met aussi prendre la marionnette, ah ben là, ben, ça monte en sauce, ça crie, ça hurle, ça punit, et ça va pas. Et non, donc c'est justement à ce moment-là où l'enfant il se fait prendre comme une marionnette, le voir, dire bon, il s'y fait complètement prendre, là, de ce coup, il change d'intonation, il change de voix, il change de regard, il est possédé, quoi. Et ben là, je suis un roc d'amour aimant, je suis solide, j'ai le cœur grand ouvert, et je peux aller vers l'enfant, et des fois, rien que de le regarder et de poser la main dessus, ça le fait revenir à lui. Ben non, c'est pas possible de se laisser avoir comme ça. Des fois, il faudra quelques mots pour dire ouh, où es-tu? Reviens à nous, ouh, coucou. Reviens à l'intérieur, respire. Voilà, il y a tellement, selon l'âge et les circonstances, on va pouvoir trouver, être créatif dans la manière de faire revenir l'enfant et l'aider à lâcher tout ça. Hein, qu'il ne se laisse plus avoir comme une marionnette. Parce que c'est bien ça. C'est le psychisme ambiant, sociétal qui est là et qui vient infiltrer. Alors, il y a des choses hein, qui viennent empirer ça, bien sûr. Les enfants qui sont devant les écrans et tous ces jeux violents, eh bien, là, ils vont être encore plus les proies pour être des marionnettes. Hein. Je vous renvoie à l'émission que j'avais faite avec Lulumineuse là-dessus. On avait bien parlé de tous ces problèmes-là. Hein. Vous savez, ce jeu Fortnite, en plus, là, pour pas le citer, qui est vendu avec, je sais, ou je sais pas quoi. Eh bien, là, on a un vrai problème, parce que ça rend les enfants des vraies marionnettes, des vraies éponges au psychisme ambiant qui, après, vont aller faire des dégâts autour. Donc, en tant qu'adultes, nous avons bien une responsabilité pour empêcher de cela entrer et de laisser cela perdurer et prendre le pouvoir dans la cour de récréation. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on propose aussi pendant la récréation, bien sûr? Est-ce qu'ils ont la possibilité de faire des activités sportives, de jouer, des activités ludiques, enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans ces moments-là? Et bien sûr, à chaque fois où on se retrouve autour de la table avec eux en réunion pour poser la question, bah tiens, comment on pourrait améliorer la récréation? Parce qu'il y a bien sûr aussi voilà, tout ce côté-là en réunion, on va pouvoir poser un problème, dire bon, bah, j'observe qu'il se passe ça et ça. Moi, voilà, je souhaite qu'on aille plutôt vers une ambiance harmonieuse entre nous. Est-ce que vous avez des idées? Parce que là, il va en avoir des idées. Hein. Mmh. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de...
Radio Vassivier.
Et celle qui parle, c'est Émilie. Elle est dans l'émission, la 42e de...
Élève-toi.
Avec les enfants. Chaque samedi à 15h sur Radio Vassivier.
Oh bah, j'aurais bien ramené mon bambidou pour qu'il vous dise que c'était chaque samedi à 16h maintenant, c'est changé. Allez, et bien voilà.
Musique maintenant.
Nous allons écouter Liebestraum de Liszt. Je sais toujours pas de très bon accent, mais c'est parti. C'était Liebestraum de Liszt, interprété par Katia Bugnatishvili. Vous êtes toujours sur
Radio Vassivière.
C'est la 42e de
Élève-toi
avec les enfants. Une émission de Émilie, ma maman.
Voilà, je vous parlais aujourd'hui de ce qui se passe de navrant dans la cour d'école et qu'on peut faire évoluer. Alors bien sûr, il y a tout ce qu'on peut faire pour le groupe et il y a aussi ce qu'on va pouvoir faire pour ces enfants qui vont pas bien et qui apportent la mauvaise humeur, les mauvaises choses auprès des autres. Hein, et ce qu'on va pouvoir faire de plus miraculeux auprès d'eux, c'est les aider à changer l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Parce qu'à l'intérieur, ça vrille dur, hein, ça fait jamais plaisir en fait hein, d'être celui qui va faire tout pas bien autour de soi. Donc comment faire pour faire évoluer cette image-là? Eh bien déjà, j'en ai déjà parlé aussi, leur donner des responsabilités et leur donner des occasions de montrer ce qu'ils savent faire de positif. Et gardez-nous, et ça je sais que c'est pas toujours facile du tout, gardez-nous une image positive d'eux-mêmes. Ne pas garder les collections de timbres, comme elle dit Isabelle Fioza, ne pas se dire « Ah là là, il est vraiment pénible, il est vraiment pénible ». Non, réussir à revenir chaque matin comme une page neuve et le voir dans toute la beauté dont il est capable, cet enfant. Oui, ça c'est très très important parce qu'il y a l'enfant méchant et il y a l'enfant qui sait construit une image d'enfant méchant. Et là, c'est encore plus dur pour avancer. Voilà. Allez, je change un tout petit peu de sujet pour finir. Alors déjà, je voulais vous dire que je suis à l'écoute de vos questions. Envoyez-moi vos questions, emily.roudier23@gmail.com ou emily9@posteo.net. J'ai dû mettre un petit peu les deux. Bref, écrivez-moi, envoyez-moi des questions auxquelles je pourrais répondre. Ça me ferait très 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 plaisir. Voilà, alors c'est les vacances et j'en profite pour faire un petit peu plus de temps de jeu avec mes enfants, des temps de jeu un petit peu plus longs. Et ce matin, mon fils, il m'a dit ça.
Pendant les temps de jeu, c'est les enfants qui dessinent et pendant tout le reste de la vie, c'est les adultes. Pendant les temps de jeu, c'est les enfants qui dessinent mais pendant tout le reste de la vie, c'est les adultes.
Bah ouais, pendant les temps de jeu, c'est les enfants qui dessinent et pour le reste de la vie, c'est les adultes. Bah oui, mon choubidou. Bah oui, c'est un petit peu pour ça que ça, c'est là aussi les temps de jeu, pour que les enfants ils aient des espèces de décisions. Alors j'ai eu envie de lui poser quelques questions sur ce que c'est le temps de jeu pour lui. Allez, écoutez.
Le temps de jeu, il disait.
Oui.
C'est quoi un temps de jeu?
C'est, par exemple... l'adulte, il nous donne un temps, il lance un chrono, et puis après, c'est les enfants qui décident. Par exemple, si on veut faire un coloriage magique, et ben, on demande à l'adulte de l'aider.
Est-ce que t'aimes bien faire d'autres en temps?
Ouais, du coloriage, j'aime bien faire aussi des bracelets.
Des chamailles, des fois?
Ouais, des chamailles.
Est-ce que t'aimes bien qu'il y ait un chronomètre?
Oui.
Et que ça s'arrête au bout d'un moment?
Oui.
Qu'est-ce que tu ressens quand ça s'arrête?
Que je voudrais que ça dure encore un petit peu plus longtemps.
Et est-ce que tu aimes bien que tes parents, à la fin, ils te proposent un câlin?
Pas vraiment.
C'était la petite interview comme ça de mon fils au sujet des temps de jeu. Je vous rappelle qu'il y a une émission qui parle des temps de jeu. Vous pouvez aller l'écouter sur Radio Vassivière. Et voilà, cette 42e émission se termine. Je vous dis à tout bientôt. Je vous souhaite un très bon samedi, de bonnes fins de vacances. Et puis, à bientôt.